Place Info.
Bonsoir. Deux grands sujets ce soir, le Grenelle des violences conjugales et les deux nouvelles entrées au gouvernement. Jean-Paul Delevoye pour les retraites et Jean-Baptiste Djebbari au transport. Nous verrons pourquoi avec nos informés. Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, avec vous, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, et avec Bruno Cotres, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, et vous enseignez à Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Les mesures mises sur la table vont-elles suffire? Édouard Philippe, en ouverture du Grenelle des violences conjugales, a fait toute une série d'annonces attendues de pied ferme par les associations, à commencer par l'hébergement.
La première urgence, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l'abri rapide. La moitié de celles qui appellent le 3919 souhaitent quitter le domicile conjugal. 5000 places d'hébergement sont déjà dédiées aux femmes qui fuient des violences conjugales et nous avons annoncé cet été la mise à disposition de 240 nouvelles places en janvier 2020. Mais il faut encore développer cette offre, notamment pour les mères de famille. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence.
5 millions, 1000 nouvelles places. Nous allons entrer dans le dur de ces annonces au cours de cette demi-heure. Mais tout d'abord, Sophie de Ravinel, est-ce que le compte y est selon vous ?
C'est difficile de dire, quand même un tout petit peu tôt aujourd'hui, à mon avis, pour se prononcer, même si les associations qui sont très en défense, justement, des droits des femmes sont montées au créneau ce soir, ce qui est assez naturel, parce que chacun montre un peu ce qu'il a dans le coffre au premier jour de ce Grenelle qui va quand même durer jusqu'au 25 novembre. C'est-à-dire qu'on a plusieurs semaines devant nous pour vraiment travailler le sujet dans le fond, et le fait même de l'existence de ce Grenelle est une bonne nouvelle et c'est quelque chose de positif.
Deux mois et demi, Yasmina Jaffar, pour aller au bout de cette réflexion, de ces propositions, cela fait un peu beaucoup peut-être ?
Oui, c'est quelque chose de positif dans les faits, parce qu'on en parle et que les médias en parlent et qu'on prend conscience.
Pour vous, c'est le plus important,
mais
ça.
Mais dans l'absolu, ça n'est pas plus utile que ça, parce que l'urgence est fondamentale. Aujourd'hui, le ton était grave. Le discours d'Édouard Philippe était intéressant et on a senti qu'il était concerné. Mais peut-être que parfois, le visage de Marlène Schiappa en faisait un petit peu trop dans la dramaturgie. C'est un sujet dramatique, mais le numéro 3919 existe depuis 1992, par exemple. On en parle aujourd'hui. Et je sais que Radio France est très très impliquée pour que ce numéro, on en parle toute la journée, mais en espérant qu'à partir du 25 novembre, on continue aussi à en parler, parce que le sujet est plutôt anthropologique, et assez culturel, et il faut éduquer en profondeur. Donc si le Grenelle permet ça, cette discussion autour du rapport homme-femme, très bien, mais il y a une urgence fondamentale qui est Salomé, la centième femme, on l'a retrouvée sous des détritus il y a quelques jours, et il y a une urgence fondamentale à ne pas discuter. Là, on ne doit pas discuter, on doit agir, et on ne peut pas agir avec si peu d'argent.
Hélène Pilichowski, vous êtes aussi critique que Yasmina Jaffar ce soir?
Non, moi je suis pas critique par rapport à ce qu'a décidé le gouvernement. Je suis par contre critique à propos de votre question quand vous dites est-ce que le compte y est. Pour moi, c'est pas une affaire de compte, c'est pas une affaire d'argent. Bon, les féministes, surtout les militantes féministes. Ouais. Moi, je suis féministe je crois qu'il
faut
défendre les femmes.
Je ne parle pas seulement d'argent, mais c'est vrai que ça reste une donnée essentielle.
Je trouve que les féministes ont un comportement qui est quand même surprenant. Leur combat est souvent polémique. J'étais certaine qu'elles ne seraient pas.
Je suis d'accord, mais heureusement qu'elles sont là sur ce.
Oui, mais j'étais certaine qu'il y aurait. J'étais certaine qu'il y aurait une polémique à la suite du discours du Premier ministre, que ce ne serait pas suffisant. J'en aurais donné mes deux mains.
Oui, bien sûr,
sincèrement,
tout est d'accord, c'est normal.
Donc, c'était nécessaire. Ce qui fait, c'est bien. On a des chiffres qui sont effectivement choquants, qui nous troublent tous et toutes. Franchement, c'est vrai. Mais il y a autre chose que l'argent. On brandit sans arrêt le milliard que le gouvernement aurait lâché il y a quelques années.
Mais quand il s'agit de la grande cause.
Mais quand vous regardez bien sur le milliard qui a été lâché, détachée. Ça, c'était sur 5 ans. D'abord, on oublie de le dire. Ça a été donné aux régions. Vous savez que les grandes régions espagnoles ont beaucoup d'autonomie. On en a donné à certaines régions, etc. On a dosé. Ça a été donné à des associations, etc. C'est pas de l'argent qui va permettre aux maris, aux époux, aux amants.
Si, c'est de l'argent qui permet l'hébergement.
Pas
si, c'est l'argent. Si, c'est l'argent. Là, vraiment, c'est le nerf de la guerre.
Non, il faut éduquer.
Il faut éduquer. C'est pour ça que j'ai parlé d'éducation, bien évidemment. Et d'un rapport anthropologique à la relation homme-femme.
Mais il y a des choses très, très importantes et qui demandent de l'argent, évidemment.
Je boucle ce tour de table avec vous, Bruno Cotteresse. Vous voyez, il y a du débat autour de la méthode, finalement.
Oui, c'est pas surprenant qu'il y ait du débat parce que c'est un problème de très grande ampleur et de très grande importance. C'est une honte pour notre pays d'avoir ces victimes. Le classement de la France quand on la compare aux autres pays européens est tout à fait on tombe un peu des nues quand on voit les statistiques. Donc évidemment, c'est pas étonnant qu'on trouve du débat parce que c'est un problème qui est à la fois difficile, douloureux, qui nécessite une grosse mobilisation des institutions. Effectivement, il n'y a pas que la question des moyens, mais c'est vrai que la question des moyens est essentielle. Et nous avons eu des exemples dramatiques de personnes qui auraient pu être sauvées éventuellement. Donc la question des moyens du court terme est absolument fondamentale. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose que nous ayons ce Grenelle qui va permettre sans aucun doute aussi, je l'espère, de faire un peu d'exercice de comparaison européenne et d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette particularité de la position de la France et aussi de travailler sur le long terme. Je partage l'adjectif qui a été utilisé. C'est anthropologique, effectivement. Oui.
Mais Bruno Cotteresse, encore un mot avant la pause de l'info. Les collectifs de défense fonctionnent comme des lanceurs d'alerte, finalement, aujourd'hui.
Oui, mais...
Ils font avancer le débat.
Mais ils font avancer le débat, justement. On est bien aujourd'hui dans un moment politique où l'interaction entre la sphère du gouvernement, des institutions et celle de la société civile est un enjeu démocratique tout à fait essentiel. Et je dirais même que d'une certaine manière, se saisir de ces problèmes est tout à fait normalement en adéquation avec la perspective générale que veulent Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est-à-dire de se retrousser les manches sur un certain nombre de problèmes où le rang de la France par rapport à ses moyens, par rapport à sa puissance est tout à fait étonnant. Il y a la question démocratique aussi dont il faudra s'occuper à un moment donné, mais là il y a de l'urgence.
Encore beaucoup de choses à dire sur ce Grenelle des violences conjugales, 20h10 sur France Info. De l'info tout d'abord avec vous, Jules de Kiss.
Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari entrent au gouvernement. France Info vous l'annonçait à la mi-journée et l'Élysée le confirme ce soir. Le premier haut commissaire à la réforme des retraites va continuer à travailler sur ce dossier aux côtés de la ministre de la Santé. Et le second, député La République En Marche de la Haute-Vienne, devient secrétaire d'État aux Transports. Il faut un plan d'action sur 5 ans, un budget exigeant et des mesures avec un suivi, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà le scepticisme de la porte-parole d'Oser le féminisme sur France Info après ces annonces d'Édouard Philippe. Elle parle d'un empilement de mesures. Le Premier ministre qui a lancé à Matignon le Grenelle pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il promet notamment la création de 1000 places d'hébergement d'urgence ou la nomination de procureurs référents pour ces cas de violence. La coalition anti-Salvini prend forme en Italie. Les adhérents du mouvement 5 étoiles, force populiste de gauche, s'expriment à 80% pour le projet d'alliance avec des sociaux-démocrates. Ils ont voté en ligne pour cela. Les ennemis politiques d'hier vont donc s'entendre aujourd'hui pour exercer le pouvoir. Ce serait donc sans l'ancien ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini, qui a fait éclater au début du mois d'août le gouvernement auquel il prenait part. Plus de 24 heures après le naufrage d'un bateau de tourisme au large de la Californie, les secours américains viennent de retrouver 20 corps dans l'épave. Le navire organisait des sorties de plongée sous-marine. Il a coulé après avoir pris feu.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un Grenelle pour quoi faire pour la comédienne Eva Darlan qui était l'invitée de France Info ce matin. C'est une voix forte dans ce débat. Ce Grenelle, eh bien, ne servirait à rien. Tous les dispositifs, selon elle, existent déjà.
Moi, je trouve que le Grenelle n'a pas lieu d'être. Ils savent tout. de ce qu'il faut faire. J'ai personnellement donné des dossiers extrêmement pointus qui avaient été faits par le Haut Conseil à l'égalité, avec des études, dont la Fondation des femmes d'ailleurs, avec des études chiffrées. La Convention d'Istanbul existe, les projets de loi cadre existent, tout existe. Tout, voilà, pourquoi faire un Grenelle ? Il suffit d'appliquer déjà les lois existantes et ensuite de se conformer à ce que demandent les associations. Depuis que ce bazar a été mis en route en juillet, ben des femmes sont mortes. Il aurait mieux valu d'appliquer des lois, ça aurait peut-être sauvé des vies.
Sophie Dravinel, le bazar, dit-elle, Eva Darlan, c'est une voix forte, je le précisais à l'instant, elle fait réfléchir, tout existe déjà, il suffit d'appliquer.
Oui, je ne voudrais pas aller à l'encontre de ce que dit cette spécialiste, alors que je ne le suis pas, mais moi j'ai quand même l'impression que si elle a raison en disant qu'effectivement l'arsenal juridique existe, qu'il y a tous les instruments pour ça, il y a quand même une prise de conscience, et si ce Grenelle ne servait qu'à ça, je pense que ce serait déjà extrêmement utile, une prise de conscience de l'opinion publique, et surtout de la nécessité de former aussi bien les juges aux affaires familiales, de former aussi bien les forces de l'ordre, de former toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil, de sensibiliser les familles, de sensibiliser les entourages sur le sujet, et ce Grenelle, rien que pour ça, est extrêmement essentiel, à mon avis.
Oui, Yasmina Jaffar, sur cet aspect des choses, les sanctions qui existent déjà, c'est toujours cette idée récurrente dans les questions de sécurité, notamment dans ce pays, quand il s'agit de voter de nouvelles lois. Il suffirait d'appliquer ?
Oui, d'appliquer, de retirer ce qui est une main courante, mais plutôt de privilégier la plainte, d'utiliser la plainte comme un véritable objet juridique. Et quand on arrive dans un commissariat, ne pas prendre la plainte, ça veut dire que le policier étend la loi. Ça aussi, il faut leur dire. Donc tout existe. Et quand il y a 837 téléphones avec le bouton, vous savez, qu'on appelle immédiatement quand on sent qu'on est en danger, et qu'en fait, il n'y en a que 500 qui sont distribués, il y a un problème, parce qu'en effet, tout est là, mais rien n'est utilisé. Donc oui, encore une fois, ce Grenelle est important pour en parler. Mais nous sommes dans la suite du hashtag MeToo. Nous sommes dans la suite de l'affaire de Weinstein. Il y a eu un documentaire cet été sur Monsieur Weinstein, justement. Et la mentalité a évolué. Les hommes sont conscients de ce qui se passe. Donc c'est
la suite. Lien avec toutes ces affaires.
Il y a un lien direct.
Hélène Pilichowski.
C'est la suite. Je suis étonnée de cette remarque de l'actrice Eva Darlan. Eva Darlan, c'est ça. Parce que précisément, ce qui est fait l'originalité de ce qu'a proposé aujourd'hui le Premier ministre, c'est des solutions concrètes, très concrètes, parce que des textes de loi, avant qu'ils soient appliqués effectivement, le problème en France est souvent la lenteur des procédures. Et là, il a proposé des choses qui sont vraiment des endroits pour accueillir les femmes en détresse, on en manque beaucoup.
Oui, donc mais enfin, l'annonce quand même inédite. L'annonce est quand même de 200 places, ce qui est assez limité.
C'est limité, mais c'est mieux que rien.
200, bien entendu.
Il y a d'autres causes à défendre en France.
Il
y a ça, les procureurs former, par exemple.
Les trois urgences.
Ça, c'est très important. Oui, le bracelet électronique.
C'est important. Porter plainte à l'hôpital.
Vous pourriez...
Ça, c'est important.
Voilà, alors
Sophie Dravinel, sinon, les annonces ne sont pas inédites.
Sophie Dravinel le précise, la possibilité, effectivement, de porter plainte à l'hôpital, qui sera généralisée, donc au sortir de ce Grenelle.
Absolument.
Ça, c'est du très concret, finalement.
Oui, c'est du très concret. Ça va faire avancer les choses. Et je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que c'est une suite, c'est une conséquence, c'est un cheminement. Ce cheminement va déboucher sur des choses, et même si l'arsenal peut, s'il existe, sera appliqué avec des progrès et des choses positives qui sont ajoutées au fur et à mesure de la prise de conscience des uns et des autres.
Alors justement, puisque vous dites prise de conscience, je me tourne vers vous, Bruno Cotrès. L'argument des collectifs de défense, c'est de dire, c'est comme chez nous toutes et autres, un Grenelle c'est long, et pendant ce temps, des femmes meurent. Mais l'objet du Grenelle n'est-il pas aussi, vous le disiez à l'instant, la prise de conscience ?
Oui, je trouve que par rapport à la déclaration qu'on a entendue de la comédienne, je suis très partagé. À la fois, je comprends ce qu'elle veut dire, et c'est vrai que pour les acteurs de terrain, pour ceux qui s'engagent fortement dans une cause, il est toujours désespérant de voir que leur engagement, c'est comme s'ils frappaient à des portes fermées, il n'y a rien qui avance, etc. Je comprends ce qu'elle veut dire. Dans le même temps, je ne suis pas très content comme citoyen d'entendre que quand le gouvernement se saisit d'un problème, ça ne sert à rien, c'est un grand bazar, tout ça passe un message qui est un message totalement pessimiste et un peu désespérant sur l'action publique. On pourrait appliquer ça, on pourrait appliquer ça à peu près à tous les domaines. Le nombre de décès sur nos routes, on pourrait appliquer ça à de très nombreux problèmes de l'action publique. La réduction du chômage.
Donc, vous vous dites quoi? C'est
un bazar pour vous.
Chose de la relation des Français aux politiques, je trouve.
Que le gouvernement fasse un acte symbolique, déjà, par exemple.
C'est l'absence de confiance des Français vis-à-vis de la politique, à mon avis.
Dans ces États généraux, on pourrait mettre à l'ordre du jour. Pourquoi la loi n'est pas appliquée?
Quel que soit le sujet, vous dites ce soir, Bruno Cotterêts, quel que soit le sujet, dès qu'il y a le gouvernement qui avance, qui essaie de faire avancer les choses, il y a une forme d'hostilité collective.
En tout cas, une forme de pessimisme sur la sincérité de l'action publique, sur l'engagement réel des institutions. Alors, tout ça est limité, bien sûr, mais effectivement, si le gouvernement ne faisait absolument rien, on lui tomberait dessus aussi. Donc, il y a un moment donné où il faut effectivement prendre acte que nous avons des sociétés complexes, avec des jeux d'interaction entre les institutions, que la loi n'est pas appliquée dans de très nombreux domaines.
Et pas seulement dans celui-là, effectivement.
Mais le fait de pouvoir le dire est déjà énorme.
Yasmina Jaffar.
Justement, sur la sincérité, aujourd'hui, Édouard Philippe a parlé de quelque chose de très important sur l'autorité parentale et sur l'idée de ce qu'est un bon père. Là, en effet, la confiance que l'on a, nous, vis-à-vis du politique, est peut-être redorée parce qu'on se dit, il parle vrai. On a vraiment senti, je le répète, qu'il était concerné en employant des termes inédits et d'apporter une forme d'éducation aussi autour du crime passionnel. Et il en a parlé, qu'on n'est pas forcément un bon père quand on tape sa conjointe parce que l'enfant en est abîmé. C'est inédit et c'est une façon de sortir du langage politique habituel. Et là, peut-être que ce Grenelle, le 25 novembre, pourra vraiment servir à quelque chose.
Je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit le Premier ministre à propos des commissariats et des gendarmeries.
Quand une femme a le courage de porter plainte, l'accueil que lui réserve le commissariat ou la gendarmerie doit être irréprochable. Collectivement, nous n'avons pas fait le nécessaire pour que la bonne réponse soit donnée dans ces circonstances. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur va lancer ce que nous appelons un audit dans 400 commissariats et gendarmeries, afin d'identifier très précisément les dysfonctionnements et de les corriger.
Un audit, c'est peut-être un petit peu long, Sophie Dravinel.
Oui, mais c'est nécessaire et c'est quelque chose qui doit être effectué sur le fond. Là encore, je vous rejoins quand vous parlez de la patience nécessaire dans l'action publique à partir du moment où des décisions ont été prises. Et là, je crois que nous sommes tous d'accord autour de la table pour considérer que l'intervention du Premier ministre a sans doute su toucher des choses et des personnes. Je pense que non, ça, il faut pas avoir peur de prendre du temps sur ces sujets-là. Effectivement, il y a des morts tous les jours, il y a des femmes qui sont tuées tous les jours parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont conjointes. Mais je crois que là, il faut vraiment prendre le temps.
Allez, on va rester sur ces questions justement d'intervention des forces de l'ordre dans ces situations. Mais tout d'abord, 20h20 sur France Info. Nous prenons le temps d'une pause. Le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Dans 2 heures environ, Boris Johnson saura s'il a les mains libres pour faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il compte le faire même sans accord le 31 octobre. Mais des parlementaires comptent s'opposer à cela. Vote prévu à la Chambre des communes vers 22h. Et le Premier ministre n'a plus de majorité absolue. Un conservateur vient d'annoncer sa défection. C'est une coupe massive annoncée dans les effectifs du ministère de l'Action et des Comptes publics. 5800 emplois supprimés dans les 3 ans à venir, annonce le ministre Gérald Darmanin au syndicat. Elles sont rendues possibles, d'après lui, par des simplifications comme le prélèvement à la source ou la suppression de plusieurs taxes qu'il n'y a donc plus besoin de collecter. L'association Génération Future appelle sur France Info au retrait de plusieurs produits qui contiennent des substances dangereuses, des phtalates, du bisphénol, du parabène qu'on trouve dans des aliments, des cosmétiques, des produits ménagers. Conséquence, ces polluants se retrouvent dans nos corps. Tous les Français sont concernés, d'après une étude publiée aujourd'hui par Santé publique France. Une enseignante de maternelle de 41 ans vient d'être condamnée à 1 an et demi de prison pour des violences commises sur un élève de 4 ans. Décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en Savoie. L'enquête fait suite au signalement d'un de ses collègues qui l'a vu frapper la tête d'un enfant sur le sol. Et puis le match entre Stanislas Wawrinka et Daniil Medvedev va commencer d'une seconde à l'autre à l'US Open de tennis. C'est le premier quart de finale du tableau masculin. Plus tard ce soir, Roger Federer affronte le Bulgare Grégor Dimitrov, alors que dans le tableau dames, Serena Williams devra se défaire de la Chinoise Qiang Wang pour rejoindre dans le dernier carré l'Ukrainienne Elena Svitolina, tombeuse de la Britannique Joanna Konta en 2-7.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors à Cagnes-sur-Mer, hein, le rôle de la police a été pointé du doigt, vous l'avez tous entendu par un témoin, une femme qui a donné l'alerte et accusé quelque part les forces de l'ordre, les policiers d'avoir manqué de réactivité. Yasmina Jaffar, là encore finalement, par un certain biais, on en revient à la question des moyens. Les policiers se sont défendus en expliquant qu'ils n'avaient pas assez de patrouilles pour pouvoir couvrir tout le périmètre et peut-être réagir plus vite. Les moyens, toujours.
On s'en est rendu compte à toute la période des Gilets jaunes, ce qu'est le quotidien des policiers. Le dernier film de Desplechin, par exemple, parle du quotidien des policiers à Roubaix. Voilà. Donc, c'est un film exceptionnel qui parle de la difficulté de ce qu'est être policier aujourd'hui et du manque de moyens. Donc, c'est vrai que quand il y a une alerte autour d'un attentat présumé, il y a les moyens qui sont fournis et on fouille au peigne fin jusqu'à ce qu'on trouve la personne avec le couteau soi-disant. Mais là, c'est vrai que, je pense à Salomé, encore une fois, on l'a retrouvé que le lendemain matin parce que les informations n'étaient pas encore là et que les services n'étaient pas suffisamment établis pour pouvoir la retrouver. Mais il y a aussi cette idée d'éducation. D'éducation à la police, d'éducation à ce qu'est une urgence. Peut-être que cette urgence-là, qui sont un appel d'une femme qui se fait battre, n'est pas si important que ça et que la graduation de l'urgence n'est pas la même en fonction des différentes choses qu'on a à régler dans ce pays, bien évidemment. Donc ce Grenelle doit aussi servir à ça, à former la police, à former les esprits et à comprendre qu'une urgence, c'est une urgence, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de graduation et on aurait peut-être retrouvé Salomé autrement. Et l'autopsie et l'enquête nous montrera peut-être que si elle agonisait, là, il y a un problème.
Bruno Cotteresse, une fois de plus, les forces de l'ordre, les moyens des forces de police dans ce pays sont, au fond, une fois de plus, mis sur la table. C'est la question centrale aussi dans ces affaires.
C'est une question dont on ne sort pas depuis des années. Il y a eu de multiples occasions en France depuis 15, 20, 30 ans de pointer la question des moyens de nos forces de sécurité, des forces de l'ordre globalement. Il y a eu plusieurs même mobilisations parfois hein, de ces policiers pour réclamer des moyens. Et donc effectivement, la question des moyens est tout à fait essentielle. Par contre, je trouve qu'effectivement, utiliser ce Grenelle pour justement parler de ça, la méthode du Premier ministre qui était de dire on va aller sélectionner 400 commissariats pour voir comment ça fonctionne, c'est plutôt une bonne manière en termes d'évaluation de politique publique que d'aller sur le terrain et de faire vraiment de l'évaluation. Donc il faut essayer de comprendre, lorsque des problèmes de moyens ont été pointés du doigt, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est l'organisation des moyens qui sont en cause? Parce que des fois, on découvre que les moyens sont là, mais que l'organisation, par contre, la mobilisation des moyens est défaillante. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve avoir une logique d'évaluation de ce qui est fait et des besoins est plutôt une bonne démarche.
Alors, je vous propose d'écouter tout de même, à propos des sommes qui seront dégagées pour lutter contre ces violences conjugales, ce qu'en disait Sophie Soubiran, avocate, membre de la Fondation des Femmes, également invitée de France Info ce matin.
Le chiffre qui a été établi, c'est 1 milliard. Ce milliard, il est calculé sur le nombre de femmes victimes de violences. Il n'est pas calculé sur le nombre de femmes signalées. Il n'y a pas de différence à faire. Ça, c'est très important d'en parler parce que le continuum des violences, c'est le fait de comprendre, y compris au sein de l'institution judiciaire, qu'en réalité, il n'y a pas la petite brimade, la petite bousculade qui n'est pas grave et la personne qui vient avec un cocard et elle, alors on doit la prendre en considération.
Sophie de Rabinel, ce chiffre a été régulièrement évoqué hein, depuis plusieurs jours. Le milliard, est-ce que c'est une symbolique ou c'est la bonne échelle ?
J'avoue que je ne suis pas...
C'est très difficile à dire.
Oui, c'est très difficile à dire. Et puis moi, je ne suis pas spécialiste suffisamment. Je n'ai pas suffisamment travaillé sur le sujet pour le savoir. Le chiffre rond, évidemment, c'est un chiffre symbolique. On est évidemment très éloigné du million. Je pense que ce milliard dit quelque chose de la force, de l'exigence de ce sujet-là. Mais tous nos auditeurs pourraient se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi nécessité de mettre un milliard, par exemple, sur la façon dont les enfants sont confiés aux services sociaux ou disons dont les moyens à mettre dans d'autres sujets de société qui sont, je ne dirais pas, ni plus ni moins importants, tout aussi importants, qui sont par exemple tous ces enfants qui sont la façon dont les services sociaux s'occupent d'eux, de leur naissance jusqu'à leur âge adulte, qui sont des sujets dont on a vu aussi très difficiles. J'en parle complètement comme ça, par hasard, mais ce sujet des violences faites aux femmes est celui qui est traité aujourd'hui, mais il n'y a pas moins important sur d'autres sujets. Donc le milliard, je pense qu'il faut le regarder aussi avec prudence et sur l'économie globale de tous les sujets prioritaires.
Oui, non, mais c'est vrai. Ce qui est difficile quand on gouverne un pays, c'est effectivement d'établir la hiérarchie des besoins et de savoir jusqu'où on doit aller. Mais partout, vous entendrez dans l'éducation nationale, par exemple, quand on a toujours dit dans l'éducation nationale, c'était une question de moyens, qu'on manquait de postes. Puis une fois que les postes sont mis sur le marché, on s'aperçoit qu'il n'y a personne pour les pourvoir, qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement de François Hollande. Donc ça, c'est très, très compliqué. Mais je crois que la partie matérielle qui a été exprimée par le Premier ministre doit être complétée par toute la partie intellectuelle d'éducation, de civilisation des citoyens qui est aussi importante.
Merci Hélène Plichowski. Nous allons marquer une courte pause pour l'info. Je vous annonce que nous serons en ligne après le journal, après le rappel des informations, avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui nous fera part de ses premières impressions au sortir de ce premier jour de ce Grenelle des violences conjugales. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des Informés de France Info.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point Fort Fichet, bien sûr.
Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point Fort Fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Médias en scène, le premier festival des médias de demain revient le 8 octobre. Pourquoi nos cerveaux aiment-ils les fake news ? MeToo et Ligue du LOL, comment changer la donne au sein des médias ? Loi sur l'audiovisuel SVOD ? Quelle riposte pour les géants de la télé ? Dans les coulisses de Scam France, la série d'une génération. Rendez-vous le 8 octobre à la maison de Radio France et aux Échos pour faire le plein d'expériences et de rencontres. Médias en scène, un événement France Info et les Échos. Informations et réservations sur mediaenscène.com.
Avec Dentsu Aegis Network, TITS et la MGEN.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Les prévisions de Sébastien Léas de Météo France.
Demain, le soleil sera encore largement dominateur sur la majeure partie du pays. En revanche, une perturbation va aborder le nord-ouest. En matinée, cette perturbation apportera un peu de pluie entre la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais. L'après-midi, cette perturbation glissera jusqu'au Pays de la Loire, au bassin parisien et à l'est des Hauts-de-France et de belles éclaircies reviendront par les côtes de la Manche. C'est au nord de la Seine que les pluies seront plus régulières, alors que plus au sud, les pluies seront faibles et éparses. Cette perturbation s'accompagnera également d'un vent sensible. La tramontane sera également soutenue demain, mais le Mistral va s'essouffler. Côté température, les minimales seront localement sous les 10 degrés, mais l'ambiance sera plutôt douce demain après-midi, avec des maximales affichant 23 à 30 degrés en général et jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée. Sur le nord-ouest, prévoyez 18 à 23 degrés.
À 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. J'ai quasiment fait le tour de France, disait-il en plaisantant en juillet dernier, après 18 mois passés à sillonner l'Hexagone pour discuter de la réforme des retraites avec les syndicats, les élus, les patrons. Aujourd'hui, Jean-Paul Delevoye rentre au gouvernement, justement, pour continuer de gérer ce dossier aux côtés de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Dès cette semaine d'ailleurs, avec la deuxième phase de concertation qui débutera jeudi. Jean-Paul Delevoye, ancien élu du Pas-de-Calais, a présidé l'Association des maires de France pendant 10 ans, Claire Mesureur.
Ici, on l'appelle tout simplement Grand. Il faut dire que son imposante stature a dominé pendant des années toutes les sphères politiques de la région. Élu conseiller municipal à 27 ans seulement, il devient maire de Bapaume en 82 jusqu'en 2014, ne cédant son fauteuil que durant les deux années qu'il a passées aux côtés de son mentor Jacques Chirac comme ministre de la fonction publique. Mais il a aussi été conseiller général, puis régional, député, sénateur. Il a dirigé pendant longtemps le RPR dans le Pas-de-Calais, tout en travaillant avec le centriste Philippe Vasseur. Puis il a rejoint l'UMP, mais en conservant cette ouverture d'esprit qui lui fait préférer l'homme à son parti. C'est ainsi qu'en 2014, au moment de céder le beffroi de Bapaume, il décide d'adouber le socialiste Jean-Jacques Cottel. Il est aujourd'hui le doyen du gouvernement et à 72 ans, il ne semble donc pas décidé à prendre sa retraite.
Autre entrée au gouvernement, celle du député de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari, 37 ans, ancien pilote de ligne. Il devient secrétaire d'État aux transports aux côtés d'Elisabeth Borne dans le grand ministère des Transports et de la Transition écologique. Les élections municipales et l'ancien patron de France Télévisions, Patrick de Carolis, se lance dans l'arène politique sans être affilié à un parti. Il annonce aujourd'hui sa candidature à Arles dans les Bouches-du-Rhône, Arles qui est sa ville natale. 5800 emplois seront supprimés au ministère des Comptes publics d'ici 3 ans. C'est le ministre lui-même qui l'indique ce soir au syndicat. Conséquence, dit-il, de la mise en place de l'impôt à la source et de la suppression de certaines taxes. En clair, il y a moins de travail désormais au ministère des Comptes publics. Les violences faites aux femmes, comment améliorer la prise en charge des victimes et assurer leur sécurité loin du domicile conjugal? Comment accélérer le traitement des dossiers par la justice? Autant de questions auxquelles le gouvernement souhaite apporter des réponses fortes avec ce Grenelle qui a été ouvert aujourd'hui. 3 mois de discussion s'annoncent. Le Premier ministre a déjà pris une série de mesures, en particulier la création de 1000 places d'hébergement d'urgence qui viendront s'ajouter aux 5000 déjà existantes. À l'étranger, en Italie, les militants du mouvement 5 étoiles approuvent ce soir le projet de coalition avec le Parti démocrate. 79% de votes favorables. Giuseppe Conte va donc pouvoir achever la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis le sport et le tennis, l'US Open, l'Ukrainienne Elina Svitolina est la première qualifiée ce soir pour les demi-finales. Pendant ce temps, aujourd'hui, au mondial de basket en Chine, la France a battu la Jordanie. France Info, 20h33, la suite des informés. Jean-François Killy.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilini.
Avec nos invités, Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, Hélène Pilichowski, journaliste politique, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, et Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Nous évoquons le Grenelle des violences conjugales, dont c'était la première journée aujourd'hui. Bonsoir à vous, Marlène Schiappa.
Bonsoir.
Vous êtes, je le rappelle, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Merci d'être en direct ce soir sur France Info pour vos toutes premières impressions après cette première journée du Grenelle. Vous avez entendu ce qu'ont dit les associations de défense, les collectifs de féministes. On est venu, on a vu, on est déçu, a déclaré notamment Caroline de Haas, figure de proue de nous toutes. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir?
D'abord, je pense que ce moment de Grenelle des violences conjugales, c'est le moment justement de sortir des postures et de travailler ensemble avec un objectif commun. Et moi, je vais vous dire, il y avait beaucoup d'associations de terrain qui étaient présentes au Grenelle des violences conjugales et qui, au contraire, ont salué les avancées considérables. Est-ce que vous vous rendez compte, et je vais être très brève, mais est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois, l'État va se porter garant pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent avoir un nouveau logement? Est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois, il va y avoir dans 172 tribunaux de France des procureurs spécialisés avec un traitement en urgence en 15 jours? 15 jours de traitement par rapport aux mois, voire aux années qu'on connaît actuellement. Il va y avoir un bracelet anti-rapprochement posé dans les 48 heures après le prononcé de la mesure. Et puis surtout, sur l'autorité parentale, lors de l'examen d'une plainte, maintenant, il y aura la possibilité de suspendre l'exercice de l'autorité parentale. C'était une demande des associations depuis des années.
Ces dispositifs, Marlène Schiappa, n'existaient pas, ça n'existait pas sur la table. Comme l'a dit d'ailleurs Eva Darlan, au fond, que tout existait déjà, il suffisait d'appliquer les lois qui sont déjà en place.
Alors Eva Darlan, moi je veux bien, elle a sûrement fait des bons films dans les années 70, mais à un moment, est-ce qu'on peut se dire les choses et travailler sérieusement 2 minutes sur ce sujet? Parce que moi je veux bien que tout le monde ait un avis sur tout, sans avoir pris part à aucune discussion et sans avoir été présent au Grenelle des violences conjugales. Il y a 1300 associations qui accueillent des femmes victimes de violences conjugales. Je peux donner à toutes les rédactions leur numéro de téléphone pour qu'on parle un peu du terrain, du concret. Moi j'ai présidé 10 ans une asso et un réseau de femmes, j'étais élue locale 4 ans sur ces sujets, et je suis loin d'être la seule, il y a plein de gens engagés. s'il y a des gens qui veulent se faire plaisir en tapant sur le gouvernement, qu'ils le fassent, mais pas sur ce sujet. C'est un sujet trop sérieux. Si vraiment il y avait une baguette magique, je crois que les gouvernements précédents auraient mis en œuvre cette baguette magique. Je ne peux pas croire qu'ils se seraient désintéressés de ce sujet. Donc soyons sérieux un petit peu dans le traitement de ce sujet.
Alors vous avez lancé un certain nombre de choses concrètes, hein, vous les évoquiez à l'instant, Marlène Schiappa. J'ajouterais la possibilité notamment de porter plainte à l'hôpital, hein, qui sera généralisée. Ça permet aux femmes qui sont agressées de ne pas rentrer chez elles et d'être de nouveau agressées par leur conjoint ou ex-conjoint. J'ai une question tout de même, il y a un chiffre qui revient de façon récurrente, c'est ce fameux milliard d'euros. Un million, non, un milliard. Est-ce que pour vous, c'est la bonne échelle en termes d'investissement pour peut-être doper le dispositif et protéger ces femmes ?
Alors moi, c'est vraiment mon obsession de faciliter ce parcours qui, pour l'instant, est vraiment un parcours de la combattante. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui réussissent à s'en sortir sont extrêmement courageuses et doivent déployer une énergie considérable. Donc oui, porter plainte dans les hôpitaux, ça va faciliter leur parcours. La garantie visale, l'État garant pour les logements que j'évoquais tout à l'heure, c'est plusieurs millions d'euros. En tout, il y a 530 millions d'euros par an. Et le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, si nous aussi, on veut adopter le même mode de calcul que l'Espagne, on sera à 2, et quelques milliards. C'est-à-dire deux fois plus que l'Espagne. Et moi, je ne veux pas jouer comme ça à qui a le plus gros chiffre. Je pense que ce n'est pas l'objet de la question de la lutte contre les violences conjugales. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sérieusement, c'est-à-dire d'abord construire une politique publique, ensuite la financer. C'est ce que nous faisons. Et puis surtout, ce Grenelle des violences conjugales, il donnera lieu à de nouvelles politiques publiques qui auront de nouveaux moyens le 25 novembre.
Marlène Schiappa, il y aura d'autres annonces d'ici au 25 novembre ?
Non, là, on est vraiment sur une phase de travail. Vous avez eu déjà 11 annonces faites par le Premier ministre tout à l'heure, très fortes et importantes. Et je pense qu'il faut vraiment s'y attarder parce qu'elles sont de nature à améliorer et à mieux protéger la vie de ces femmes. Maintenant, il y a un travail continu. Moi, mon seul souhait, c'est qu'on puisse travailler ensemble en dehors des postures. La cause le mérite, dépassons les clivages pour travailler pour les femmes contre les violences conjugales. Et le 25 novembre, nous présenterons ensemble ces nouvelles politiques publiques construites sur beaucoup de sujets, le logement, l'éducation et tant d'autres.
Et vous appelez ceux qui vous critiquent au fond, vos détracteurs, ces collectifs qui sont finalement, qui se disent déçus à vous rejoindre, à travailler avec vous, main dans la main, ou c'est trop tard ?
Mais ça, non, pas du tout. D'abord, c'est jamais trop tard. Ensuite, moi, je suis vraiment dans une posture d'ouverture. Quand un collectif me dit qu'il est déçu, je travaille avec lui pour savoir sur quoi il est déçu et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Bon, il y a des demandes qui avaient été formulées par ce collectif qui n'ont pas trouvé de réponse immédiate. Ça, je l'entends. Et maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait des réponses. Mais moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Toutes les critiques qui sont constructives, argumentées et vraiment constructives, elles sont bienvenues parce qu'elles nous poussent à nous améliorer. Faut rappeler que ce sont les associations qui ont demandé ce Grenelle des violences conjugales qui en ont eu l'idée. Et nous l'avons fait parce que c'était une demande des associations. Donc je suis vraiment dans l'écoute et dans la construction commune.
Merci à vous, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Merci d'avoir accordé à France Info vos premières impressions au sortir de cette première journée donc du Grenelle sur les violences conjugales. Je me tourne vers vous, Sophie de Ravinel. Commentaire sur ce qu'a dit la ministre à l'instant.
Eh bien, c'est ce qu'on disait aussi sur Édouard Philippe tout à l'heure. Ça, c'est une. On sent une vraie préoccupation du sujet, une évidence dans sa réponse sur les critiques, par exemple, émises ce soir par Caroline Dehas sur le fait qu'elles sont, sans doute caricaturales et rapides et qu'il y a des centaines d'associations qui travaillent avec le gouvernement. Après, il y a sans doute aussi un effet de communication, un effet voulu par le gouvernement politique pour entrer dans cet acte 2 du quinquennat, d'un rapport à l'opinion publique, etc. Mais sur le fond de ce qu'elle dit, on ne peut que lui donner notre accord.
Yasmine Najafar.
Non, ne serait-ce que sur la date, le 39-19, on est le 3-9-2019.
Voilà.
Donc en effet, il y a un effet de communication volontaire. Mais c'est vrai que par rapport à ce que disait la ministre, le parquet référencé ou la chambre d'urgence judiciaire, ça va être une nouveauté. Mais l'action que j'aurais voulu lui poser, c'est sur la formation justement de ces nouveaux magistrats. Combien de temps ça va prendre ? Sont-ils formés aujourd'hui ? Voilà, ça c'est une question aussi importante.
Et les moyens accordés.
Et nous aurons évidemment jusqu'au 25 novembre pour approfondir ces questions, toutes les questions soulevées par ce Grenelle sur les violences conjugales. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
Le gouvernement est à côté de la plaque, d'après l'ancien procureur Luc Frémiot. Invité de France Info, il réagit aux annonces d'Edouard Philippe aujourd'hui pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il lançait ce Grenelle à Matignon. Le Premier ministre annonce un plan de 5 millions d'euros pour créer 1000 places d'hébergement d'urgence après ces violences. Insuffisant, juste aussi les associations féministes. Ce Grenelle, c'est le moment de sortir des postures, leur répond à l'instant sur France Info la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Ce Grenelle qui commence alors que les associations féministes déplorent 101 féminicides en France depuis le début de l'année. Le 100e le week-end dernier à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Le compagnon de la victime vient d'être mis en examen pour meurtre par concubin. Il a frappé la jeune femme en pleine rue avant de la laisser pour morte sous un tas d'ordures et de branchages. Le géant des supermarchés américains Walmart s'engage pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Son patron dénonce le statu quo du pouvoir sur cette question et il retire des rayons certaines munitions, celles qui sont destinées aux fusils d'assaut utilisés dans des tueries de masse. Décision un mois après une fusillade dans un Walmart à El Paso, au Texas. Le tireur avait fait 22 morts. 14 morts au Mali dans l'explosion d'un bus qui a roulé sur une mine. Cela s'est passé dans le nord où sévissent encore de nombreux mouvements djihadistes. Un drame similaire avait fait 24 personnes tuées au début de l'année dans le centre du pays. Et puis la France continue sur sa lancée au championnat du monde de basket en Chine. Deuxième victoire en deux matchs dans son groupe. Succès 103 à 64 contre la Jordanie. Les Bleus sont qualifiés et assurés de jouer la prochaine phase de la compétition.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous allons évoquer à présent ces deux nouvelles entrées au gouvernement, Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari. Mais tout d'abord, tous les quatre, je voudrais vous faire réagir à ce qu'évoquait Jules de Kiss dans la première partie de ces informés. Vous savez, l'annonce qui a été faite ce soir par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, et Olivier Dussopt, qui s'occupe, lui, au gouvernement des fonctionnaires, des quelques 5800 emplois qui seront supprimés au ministère de l'Action et des Comptes Publics sur les trois années qui viennent. Bruno Cotrès, nous sommes de nouveau de retour dans cette sorte de serpent de mer qui était le, vous savez, l'annonce des 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires qui était une des promesses d'Emmanuel Macron.
C'était une des promesses d'Emmanuel Macron et sans remettre en cause cette promesse, dans sa conférence de presse à la sortie du grand débat national, Emmanuel Macron avait dit que ça n'était peut-être pas la priorité des priorités. Il a jamais dit qu'il ne tiendrait pas cet objectif, mais il a expliqué que ça n'était pas la priorité des priorités et que c'était pas pour lui quelque chose d'aussi, c'était pas une vache sacrée pour lui. Donc effectivement,
oui, il y a une forme de reculade là-dessus quand même.
Voilà, on a ce serpent de mer. Depuis de nombreuses années, on nous explique que les effectifs vont diminuer de la fonction publique, que nous avons cette exception française, une fonction publique avec des effectifs. Et c'est vrai que
pléthorique, important.
Non, je ne suis pas de pléthorique. Je suis moi-même employé du secteur public
et je
mesure à quel point c'est important pour notre pays de couvrir à travers différents secteurs de l'action publique. Je trouve que très souvent, on a tendance à caricaturer la situation de ce point de vue-là. Il y a eu beaucoup de restructurations et beaucoup d'évolutions qui ont été faites dans la modernisation du secteur public. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'annonce vienne du ministère des Comptes Publics.
Oui.
Donc ça, je trouve qu'il y a un élément de ce point de vue-là de communication qui est tout à fait évident.
Pour moi, c'est une évidence parce que c'est une évidence. C'est un petit peu tôt. On sort juste de l'annonce là. Mais enfin, que le budget soit le premier à annoncer ça, c'est le bon élève. C'est Gérald Darmanin qui dit oui, mais attendez, n'oubliez pas notre détermination. Effectivement, voilà ce qui a été dit à l'issue du grand débat. Nous ne voulons pas effaroucher les Français et en particulier ceux qui sont prioritairement concernés, mais nous sommes déterminés, nous le restons, et d'ailleurs nous vous le montrons, nous sommes les premiers à la manœuvre.
Hélène Pilichowski, Gérald Darmanin avait parlé de cet été, mois de juillet, de 15 000.
Oui,
rappelez-vous
oui,
le chiffre, 50 000 fonctionnaires d'État, puisqu'il y avait 70 000 de la fonction publique territoriale. On a réduit la voilure.
Ah ben absolument. Gérald Darmanin, d'abord, c'est le spécialiste des annonces. Vous avez remarqué, il adore ça. Il est très doué pour ça, d'ailleurs. C'est lui, il se permet de temps en temps, il s'est même fait remettre à sa place un petit peu par Édouard Philippe tout récemment, là. Il se permet de dire des choses. On ne sait pas trop s'il lance des ballons d'essai. Enfin bon. Mais il faut savoir quand même que Bercy a toujours été un gros consommateur, on peut dire, de fonctionnaires. C'est énorme, le bateau de Bercy, c'est énorme en matière de fonction publique. Je ne connais pas, mais c'est plusieurs dizaines de milliers, en tout cas, d'emplois à Bercy. C'est très, très important. Donc, ce n'est pas choquant. Et puis, Gérald Darmanin, c'est aussi, il a été formé, on sait par qui, c'est-à-dire par Nicolas Sarkozy, qui était le champion de la suppression du nombre des fonctionnaires en France. Donc, ce n'est pas très choquant. C'est explosif, parce que s'il y a beaucoup de Français, en particulier la droite libérale, qui tout le temps dit qu'on a pléthore de fonctionnaires et qu'il faut écrémer tout ça, il y a aussi beaucoup de Français qui chérissent la fonction publique et qui s'imaginent qu'ils vont perdre un petit peu de ce que peut leur procurer l'État si on n'arrête pas de supprimer des fonctionnaires. Comment je vais faire ? Mais vous savez, par exemple, pour payer ses impôts, avant, vous alliez dans la perception du coin. Mais il n'y a plus de perception, donc ça supprime. Mais oui, mais c'est ça qui arrive, c'est la modernisation du pays.
En tout cas, on y va plus clair, hein, 15 000 jusqu'à 2022, et donc sur les 120 000 qui étaient imaginés auparavant. Allez, on va parler de remaniement à présent avec l'arrivée donc de Jean-Paul Delevoye aux côtés d'Agnès Buzyn pour être en charge lui-même des retraites. À quoi ça sert de devenir quasi-ministre ? Il leur sera toujours haut-commissaire, mais auprès de la ministre. Question posée tout à l'heure à Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, qui était l'invité du 18-50 de France Info.
On doit être reçu, moi, jeudi prochain matin, par le Premier ministre. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de messages, parfois contradictoires. Par exemple, le dernier en date, le président de la République qui dit que lui ne retient pas l'option que privilégiait le haut-commissaire, celle de l'âge pivot. Et on nous dit aujourd'hui que c'est le haut-commissaire qui va porter son projet.
Yasmina Chaffar, c'est une forme de message contradictoire, hein.
Oui, enfin en tout cas, c'est la volonté.
Le ministre, le nouveau ministre porte cet âge pivot et soudain, il en a été, on va dire, privé par le chef de l'État.
Un petit peu.
Désaisi.
Ça rappelle un petit peu le rapport Borloo. En tout cas, d'être au gouvernement, non, mais c'est pour faire un raccourci. Je voyais l'aide. Non, mais bon, c'est une façon de revenir sur une décision. Mais en tout cas, c'est d'être au gouvernement et de tous les mercredis annoncer son projet, c'est être en conversation et peut-être c'était plus confortable pour M. Delevoye d'être à l'extérieur pour pouvoir traiter un sujet aussi important, pointu, qui concerne absolument tous les Français et sur lequel on ne peut pas passer son temps à reculer parce que c'est une des volontés farouches et entières du président de la République. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, on l'a su sous l'ère Chirac, et qui ne sera pas une ombre au tableau pour Emmanuel Macron. Et c'est une belle prise parce qu'il est à droite et que c'est assez intéressant pour ce personnage-là d'autorité plutôt le doyen et une personnalité à droite.
Alors justement, attendez, Sophie Ravinel, vous allez avoir la parole, mais puisqu'on parle de la personnalité de Jean-Paul Delevoye, je vous propose ce document qui a été diffusé par La Voix du Nord. C'est une sorte d'autoportrait par Monsieur Delevoye lui-même, extrait.
J'ai su par Jean-Pierre Raffarin qu'en réalité Chirac m'a dit « Mais ce type, il m'emmerde, il ne me demande jamais rien. » Et en plus, voilà. Et donc, ça l'avait impressionné que je puisse, et c'est comme ça que je suis devenu médiateur. J'ai occupé, et j'occupe, des fonctions, sans les avoir jamais demandées, dont je mesure le luxe que ceci représente, sans avoir eu à comploter pour des stratégies de conquête de pouvoir, jamais, et en ayant pu garder cette utopie de vouloir faire de la politique par le haut, et non pas par calcul.
Alors, ce monsieur a un CV long comme le mois de mai, Sophie de Ravinel, on va pas le rappeler. C'est un dur.
Oui, il est très, très, très malin. C'est quelqu'un qui est extrêmement rusé, qui a 40 ans de vie politique dans ses bottes. Je pense qu'il a à peu près couru tous les couloirs de ce que la politique peut proposer, depuis sa mairie au Conseil général, député, sénateur, ministre de la fonction publique de Chirac, médiateur de la République, président du CESE, ce qui n'est pas du tout anodin pour les corps intermédiaires qui sont justement ceux que Emmanuel Macron veut toucher dans cet acte 2 du quinquennat dont je parlais précédemment. Et je pense que cette nomination est effectivement très symbolique de ce que Emmanuel Macron veut mettre en place. Moi, je dirais pas que c'est une prise de la droite. C'est d'abord, si je peux me permettre, il l'est, ou au moins depuis 2016. C'est-à-dire qu'il est un des premiers à être en marche avec Emmanuel Macron. Il fut une prise. Aujourd'hui, il est surtout l'occasion pour Emmanuel Macron d'ouvrir cet acte 2 et de se rapprocher des Français parce que, justement, la figure de Delevoye est perçue comme extrêmement ronde, tous les syndicalistes qui travaillent avec lui, toutes les personnes qui ont eu à négocier avec lui dans toutes sortes d'affaires le disent, le reconnaissent. Il est très doué.
Et je pense qu'en interne, justement, au sein du gouvernement, comme le fut d'ailleurs Martin Hirsch hein, en son temps sous Nicolas Sarkozy, ce sera beaucoup plus facile de faire avancer cette réforme des retraites qui est extrêmement compliquée et qui va nécessiter que l'ensemble des acteurs du gouvernement s'accordent entre eux. Et c'est peut-être là où la tâche sera aussi la plus difficile.
Allez, quel message tirer de ces deux nominations ? On va y venir. Non, on va y venir dans un instant. Juste une précision, c'est ce que me dit Camille Laurent dans mon oreillette. Elle me dit 103 000 fonctionnaires en poste à Bercy, ce qui donne un peu une idée de ce que représente la suppression de 5 800 postes. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
On est au cœur du bras de fer en ce moment entre Boris Johnson et les députés britanniques opposés à un Brexit dur. Un élu conservateur vient d'annoncer sa défection. Le Premier ministre perd donc sa majorité absolue à la Chambre des communes, alors qu'un vote important doit intervenir dans un peu plus d'une heure, celui d'une loi pour empêcher une sortie sans accord avec Bruxelles le 31 octobre, comme le souhaite Boris Johnson. Cela portera donc à 10 000 au total le nombre de postes supprimés au ministère de l'Action et des Comptes Publics durant tout le quinquennat. Le ministre Gérald Darmanin annonce son syndicat la suppression de 5 800 postes dans les 3 ans à venir, notamment des personnels des impôts après plusieurs réformes, celle du prélèvement à la source ou de la suppression de plusieurs taxes, explique Bercy dans un communiqué. Le gouvernement s'étoffe en cette rentrée. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, intègre l'exécutif. Il est nommé aux côtés de la ministre de la Santé pour continuer à mener cette réforme délicate. Le député La République En Marche, Jean-Baptiste Djebbari, sera lui secrétaire d'État aux transports. L'ouragan Dorian perd encore de sa puissance. Il est rétrogradé en catégorie 2 sur 5. Il se dirige vers la Floride avec des vents à 175 km/h et il laisse derrière lui un archipel des Bahamas en partie dévasté par les rafales et les inondations. 5 morts et au moins 60 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Le transfert de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille est finalement validé. Annonce du président du FC Nantes, Valdemar Quita. Un transfert du milieu de 24 ans, possible même après la fin officielle du mercato, grâce au statut de joker prévu dans les règlements.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Bruno Cotresse, des syndicats qui vont défiler, on va dire, en ordre dispersé selon la formule consacrée, une CFDT qui acte hein, le principe du système par points, un âge pivot qui est escamoté aujourd'hui. On a l'impression qu'il va y avoir une longue discussion, un grand débat national, mais quelque part, on a déjà la retraite la réforme de la retraite qui est déjà dessinée.
Oui, c'est sûr qu'il y aura il y a déjà eu une longue discussion, en fait, hein, parlementaire.
18 mois, il y a
voilà. Et il y a encore une longue discussion qui va se prolonger. Et c'est vraiment intéressant de voir l'exécutif qui utilise cet argument du temps. Parce que l'argument du temps consiste à expliquer aux Français que ça n'est pas une réforme idéologiquement biaisée qu'on ferait sous le coup d'une impulsion pour régler son compte à un système, etc. Donc on prend le temps de réfléchir, de concerter, de dialoguer. De ce point de vue-là, la nomination de Jean-Paul Delevoye est incroyablement bien ajustée. C'est vrai que c'est un sacré coup, alors peut-être pas parce que c'est une prise politique, mais à quel point il symbolise. Il a été médiateur, donc ça symbolise la médiation. Il a été président du CESE, donc ça, les corps intermédiaires. Il a un ancrage local et ça, on voit qu'on essaye de réactiver à travers la réforme des retraites une explication sous-jacente qui est que cette réforme ne va pas compromettre les grands principes d'un gaullisme social qui sent bon le chiracisme pragmatique, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, c'est une personnalité vraiment intéressante de notre vie politique, Jean-Paul Delevoye.
C'est un homme de terroir, hein, c'est Bapaume dans le Pas-de-Calais. Hélène Pilichowski.
Moi, juste une petite remarque sur le fait que donc il intègre le gouvernement. Le fait que Emmanuel Macron ait annoncé l'autre jour, à la fin de son G7 devant Anne-Sophie Lapix, que lui, il avait une préférence. Il n'a pas dit qu'il décidait, qu'il avait une préférence pour l'allongement de la durée des cotisations plutôt que sur le fameux âge pivot. Tout le monde, ça a été assez mal perçu de la part d'Emmanuel Macron parce qu'on y a vu une espèce de mauvaise manière faite à ce Jean-Paul Delevoye, ce haut commissaire qui n'a pas vraiment démérité depuis un an et demi à recevoir tout le monde, à négocier, etc. Et à qui on dit tout à coup, ben, je préfère autrement. Donc, donc peut-être aussi que là, pour se rattraper un peu, Emmanuel Macron le consacre en quelque sorte en lui disant « Ah, mais vous êtes tellement important, on ne va pas vous laisser continuer comme ça dans votre coin, vous allez venir au gouvernement, vous avez un rôle plus important ». Je crois qu'il y a quelque chose comme ça quand même qu'on peut percevoir dans cette nomination. J'ajouterais que, comme ça, pour la petite histoire, qu'enfin, il va y avoir au gouvernement quelqu'un qui est à la hauteur du Premier ministre, et je parle concrètement des choses.
Allez, et puis il y a les transports également, un mot hein, sur Jean-Baptiste Djebbari, qu'on a souvent vu sur les plateaux de France Info, 37 ans, ancien pilote de ligne, député de la Haute-Vienne, rapporteur de la loi SNCF. Écoutez cet extrait très court hein, d'interview, 1er août dernier, il était interrogé sur France Info sur les attaques de permanence électorale et sur son propre destin.
Mais je crois que l'essentiel, c'est quand même de maintenir le contact, le dialogue politique, le débat politique. Il y a parfois de la désinformation, et puis parfois il y a des vraies oppositions. Et en aucun cas, le débat démocratique doit être biaisé ou influencé par des actes qui sont des actes que je crois on doit condamner.
Vous êtes candidat à Limoges ?
Je fais partie effectivement de ceux qui coordonnent le projet municipal à Limoges, et nous déciderons collectivement mi-septembre, fin
donc
septembre,
plutôt,
de ce que nous
plutôt
faisons.
Oui.
Plutôt une réflexion qui avance et qui progresse.
Alors c'est très curieux parce qu'il y a un phénomène bizarre, on l'a annoncé en boucle toute la journée, hein, Jean-Baptiste Djebbari. L'Élysée a confirmé la nomination eh bien, de M. Delevoye, Sophie Dravinel, mais pour ce qui est des transports, est-ce qu'il y a une incertitude ce soir ?
Alors, a priori, non. Mais il est vrai que la façon dont Jean-Paul Delevoye a annoncé lui-même d'ailleurs sa nomination au gouvernement a pu peut-être troubler un peu les choses ou l'agenda de l'exécutif, parce qu'il l'a annoncé dans la Voix du Nord, ce qui n'est quand même pas très courant. On a vu des ministres annoncer leur démission dans les médias.
Mais le communiqué d'Élysée a mis du temps à sortir, hein, quelques
oui,
heures.
Oui, ça a mis du temps à sortir, oui, il y a eu des choses, il y a eu des allers-retours, il y a eu des incertitudes. Je pense que ça ne portait pas tant sur les personnes que sur la méthode.
Yasmina Jaffar, les transports, on va dire matière à part entière désormais, puisqu'il n'est question que d'environnement, de développement durable. Hein. C'est lié.
Oui, il a un parcours, il est pilote, il vient de l'aérien, oui, donc ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui sait absolument de quoi il parle, de la même manière que Monsieur Delevoye sait aussi de quoi il parle. Donc là, Emmanuel Macron s'entoure de personnes, et c'est l'acte 2 du quinquennat absolument tangible, et on lui a souvent reproché de pas être très bien entouré, ou d'avoir des ministres qui ne sont pas perceptibles, même Monsieur Blanquer, qui était adoré, a perdu 16 points en un an. Donc là, il y a quelque chose autour de la pertinence, la performance, et on va aussi parler du coup, pas forcément du transport terrestre, mais aussi du transport aérien, donc c'est intéressant.
Alors je lève le doute hein, émis par Hélène Pilichowski, je vous en remercie. Le communiqué officiel signale également la nomination du secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, donc tout cela est dans les clous, et ils seront présents donc au séminaire demain.
C'est parce que Elisabeth Borne, qui assumait la fonction auparavant, a été donc nommée pour en remplacement de François de Rugy, pour s'occuper donc de l'environnement et de la transition énergétique. Donc il était important aussi de montrer que finalement elle n'allait pas être suffisamment disponible pour assurer sa fonction majeure qui est celle de l'environnement, et que c'était bien qu'on puisse lui accorder un secrétaire d'État.
Et tant de conclure avec vous Sophie Dravinel, la une du Figaro demain.
Elle porte sur un papier écrit par votre servante sur le duel entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani à Paris, qui sera ouvert demain.
Demain. Et avec vous Yasmina Jaffar, laruchepedia.com.
Mais justement de la police au quotidien, mais à travers le film d'Arnaud Desplechin, qui s'appelle Roubaix, une lumière, et ça sera écrit par Bertrand Névin.
Merci Sophie Dravinel, Hélène Pilichowski, Yasmina Jaffar et Bruno Cotresse d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous dis à demain pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.